ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Diane, comme lors de l'entretien avec Paul, qui est aumônier de prison, comme vous êtes aumônière de prison, vous n'aimez pas le féminin, mais bien, vous êtes aussi animatrice à la messe.
Voilà, oui. C'est cela.
C'est là où nous nous sommes connus, et en même temps avec la chorale du Grégorien, et puis avec bien d'autres activités. Merci Diane d'avoir accepté mon invitation à venir parler de votre foi, de vos convictions, j'allais dire de votre combat. Parce que,
c'est un bien grand mot.
Oui, mais nous n'allons pas ce soir parler des sujets qui, entre nous, pourraient nous fâcher, comme du général de Gaulle, ou bien de l'immigration, ou bien de la politique, comme le vaccin.
Il n'y a pas de sujet qui fâche. Il y a juste des consensus à trouver.
Mais nous sommes tous enfants de Dieu, et en fait, nous allons déjà commencer par votre témoignage, votre famille. C'est un long parcours. Depuis l'Algérie.
Voilà, oui, ma famille vient d'Algérie. Ma famille maternelle vient d'Algérie. D'une famille, nous étions tous des sangs mêlés en Algérie en réalité. C'est-à-dire que, Alsaciens, Allemands, Italiens, Espagnols, Juifs, tout ça, on a tous un petit peu de tous les sangs qu'il faut. Enfin, moi, j'ai pas mal de sang alsacien, germanique, du sang italien. Et du sang alsacien que nous avons gardé cette largesse d'esprit vis-à-vis des cultes, des autres cultes ou des autres convictions religieuses. Ce qui fait que dans la famille de maman, par exemple, le pasteur venait, comme le curé ou des fois le rabbin, à moins que ce ne soit le moufti. Et ma mère a reçu des bénédictions de tous ces messieurs dans la même maison, sans que cela pose un problème à quiconque. J'ai donc gardé un petit peu cette mentalité. Et lorsque nous sommes revenus en 1962 en métropole, nous avons été très surpris de voir toutes les divergences qui pouvaient se faire jour et le racisme que nous ne connaissions pas, nous, justement, en Algérie. Voilà. Ça, c'est dit, et voilà. Donc après, moi, je suis née, malgré tout, je suis née à Toulouse, je suis toulousaine. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Qu'est-ce qui pourrait...
Des études de droit.
Oui, j'ai fait des études de droit, mais enfin, comment dire, c'était pour faire plaisir à mon papa, les études de droit. Je préférais mettre mes cours en vers, mais franchement, ça ne m'aidait pas à les retenir. Donc,
un moment important
longtemps.
Pour vous, c'est quand même une formation catholique avec la communion, confirmation, un engagement,
une
foi profonde transmise par la famille.
Voilà, j'ai fait toutes mes études. D'ailleurs, mon parrain est prêtre. Mon parrain était juif à l'origine et il a été converti et il est devenu prêtre. Et à la suite de la mort de son épouse et de sa petite fille, il est devenu prêtre. Et donc, moi, j'ai été éduquée dans la foi catholique chez les dominicaines du Saint-Nom de Jésus à Toulouse et puis ensuite à l'Annonciation à Seille. Voilà, donc j'ai gardé une solide formation. Je n'ai pas fait d'études supérieures en théologie, mais j'ai quand même de solides bases dans la foi chrétienne. Ça ne m'a pas empêchée d'aller voir ailleurs ce qui s'y passait. Parce qu'à un moment donné, on se pose des questions, à l'âge de... Voilà, donc j'ai été voir ailleurs ce qui s'est passé. Et voilà. Et je suis revenue à la foi chrétienne il y a longtemps.
Alors, il y a l'héritage de la foi qui se transmet aux enfants. Mais sur le site de la radio, nous avons mis une image qui est l'image de la communion de votre grand-mère.
Oui.
Parce que ce n'est pas seulement une génération, mais il y a une transmission dans plusieurs générations.
Voilà, ma grand-mère a été pensionnaire dans l'école où j'ai été éduquée moi-même. Elle ne s'y plaisait pas, mais elle y a fait sa première communion et j'ai cette image de première communion.
Avec la petite dédicace.
Avec
où ce sont les archanges, les séraphins.
Les séraphins.
Qui demandent à Jésus.
Et la petite dédicace d'une demoiselle germaine qui devait être religieuse, mais qui à l'époque n'avaient pas le droit de s'intituler religieuses, puisque, vous le savez, avec les lois terribles de la troisième, je crois, la Troisième République, hein, je ne dis pas de bêtises, eh bien, les religieuses du Saint-Nom de Jésus étaient obligées de s'habiller en laïque et elles avaient changé le nom de la pension qui ne s'appelait plus la pension, qui s'appelait la pension Bertrand à l'époque. Donc la religieuse a signé Mademoiselle Germaine. C'est très attendrissant.
Alors la prière des deux petits anges, c'est tout un programme, toute une proposition. On demande à Jésus de les aider dans leur prière et dans la contemplation du Seigneur.
Oui, ce qui me plaît dans cette image, c'est surtout l'hostie sur le calice qui est contemplée par ces deux séraphins. C'est ça qui me plaît. Et cette transmission de la foi chrétienne à travers la matérialité d'une image de toutes ces générations qui se sont... Voilà, c'est toujours la même église, c'est toujours la même hostie, c'est toujours le même calice.
Oui, mais à l'heure d'Internet, on pourrait dire que c'est peut-être une sensibilité sulpicienne. C'est
j'assume.
Un petit peu traditionnel.
J'assume.
Mais
j'assume.
Pourquoi pas ?
J'assume, sans souci.
L'église a 2000 ans et elle est passée par toute une série de formes culturelles. Alors d'autres disent qu'il faut une inculturation, que l'on aille en Afrique, en Asie, ou même que l'on aille sur Internet dans des sociétés que l'on dit sécularisées, modernes. Tout le débat, le passage, le message qui est transmis à travers une image que certains trouveront à l'eau de rose.
Moi, ce que j'y trouve, c'est justement cette présence eucharistique qui déborde tous les temps et qui déborde toutes les sensibilités. Voilà.
Alors certains diront qu'il y a l'action catholique d'un côté et qu'il y a les courants charismatiques de l'autre. Et qu'on le retrouve aussi...
Il faut de tout dans la maison du Père.
C'est pour ça que nous avons dans notre paroisse trois chorales avec les Grégoriens et un certain organiste qui connaît par cœur et qui est formidable et deux autres organistes. Et maintenant, la relève qui se fait par des plus jeunes qui ne savent pas lire le Grégorien.
Pourtant, c'est tellement facile.
D'ailleurs, vous savez le chanter. Et je vous avais demandé de nous choisir un de ceux que vous aimez le mieux.
Alors, moi, j'ai choisi... Vous savez, comme texte, j'avais choisi le prologue de l'Évangile de Saint Jean.
Nous terminerons par là, oui.
Et finalement, je me suis dit, comme chant grégorien, je voulais l'aspergesmé au début de la messe autrefois.
Alors, c'est Pâques.
Voilà.
C'est la purification par l'eau.
Voilà.
L'eau et le sang.
Voilà.
Nous écoutons.
Asperges me Domine isopo et mundabo.
Merci. Nous pourrions vous écouter, mais l'émission n'a que 24 minutes et je pense que nous sommes déjà entrés dans la deuxième partie de notre entretien. C'est le psaume 50, puisque vous allez voir des dames qui sont en prison. Ma faute est devant moi sans relâche. Purifie-moi, mon Dieu, je serai plus blanc que neige. Tu vas me purifier avec l'hysope, ça veut dire c'est du savon.
Oui.
Et donc, nous sommes là devant le mystère. Du pardon, de la réconciliation, et c'est ce que vous faites lorsque vous allez en prison.
Mais non, je ne donne pas la réconciliation,
oui,
moi je suis laïque.
Vous n'êtes pas prête, vous êtes laïque. mais il y a une réconciliation sans le sacrement, des personnes qui s'accusent ou d'autres qui nient le crime ou le délit qu'elles ont eu.
C'est tellement plus simple que tout ça. C'est tellement plus simple quand je vois une personne, je rencontre une personne. Au début, je vois une personne qui est détruite par son entrée en prison. C'est souvent une petite chose brisée, anéantie, qui ne comprend pas comment elle en est arrivée là. Et puis, il y a une amitié qui se fait. Et cette amitié se fait au travers d'échanges que nous avons. Et ensuite... eh bien, cette amitié qui ne me concerne pas, je la transmets à qui de droit, c'est-à-dire au Seigneur. Par l'intermédiaire du prêtre, par l'intermédiaire de la messe que nous avons régulièrement en prison. Et mon rôle s'arrête là. Je suis juste un oiseau de passage, je suis juste un témoin et rien de plus.
C'est voilà. Une grande humilité. Vous nous direz comment justement Monseigneur Le Gall vous a demandé de faire, vous a donné une lettre de mission. C'est officiel et c'est reconnu
oui.
par l'État laïque.
Oui. C'est reconnu. Nous sommes reconnus. Nous rentrons dans les maisons d'arrêt ou dans les centres de détention.
Et pour dames, vous.
Pour les dames. Moi, je suis chez les dames. Il m'arrive aussi d'assister aux messes des hommes quand il n'y a pas assez de personnes pour être dans la salle de culte. Donc, il m'arrive aussi d'aller à la messe des hommes pour seconder le prêtre, notamment dans les chants, etc. Voilà, la distribution des papiers.
Alors, on a entendu votre plaisir de chanter, mais c'est plus que ça, lorsque vous animez la messe. Et vous nous avez apporté aussi un opéra magnifique, celui de Richard Wagner. Faudra vous nous expliquer le vaisseau fantôme qui montre aussi le drame de cet Hollandais maudit. Et donc toute une tragédie qui passe à travers la musique.
Voilà, mais pour moi c'est beaucoup plus simple que tout ça.
Oui.
L'ouverture du vaisseau fantôme, pour moi, c'est le mouvement des vagues que l'on voit très bien à travers la musique, la puissance de la nature. Et chaque fois que je vois ce vaisseau fantôme, que j'entends cette ouverture du vaisseau fantôme, je vois l'océan, je vois les vagues. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, en fait.
Oui, moi j'ai vu quelque chose de très profond, ce marchand norvégien qui propose la main de sa fille à cet Hollandais maudit, car il revient sur Terre tous les 7 ans, et seulement la fidélité absolue d'une femme peut mettre fin à sa damnation.
Mais Wagner était quelqu'un de très mystique. Vous avez Lohengrin, qui est l'opéra le plus mystique de Wagner, mais c'est magnifique, je veux dire. C'est un peu comme du grégorien pour moi.
Alors vous avez choisi
L'ouverture du vaisseau
fantôme. Alors nous l'écoutons, merci.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Avec Diane, vous êtes aumônière de prison.
Aumônière catholique laïque de prison.
Voilà, et nous écoutions dans la voiture un prêtre qui expliquait le secret de la confession, la chasteté à travers le fait qu'on ne répète pas ce que nous avons entendu, des secrets qui sont parfois lourds. Vous nous avez dit que vous rencontrez des femmes à la maison d'arrêt
de Seyss,
et puis que ce que vous entendez, eh bien, vous ne le répétez pas, sinon devant Dieu.
Ah mais non, je ne vois pas pourquoi je le répéterais. C'est tout à fait du domaine de l'intime et du sacré. Et on n'a pas à répéter. Et je ne vois pas pourquoi on demanderait à un prêtre ce qu'on ne demande pas à un laïc. Et c'est tout à fait inadmissible pour moi de demander à quelqu'un de répéter non.
Oui. Et sur Radio Présence, il y a quelque temps, nous avons eu pendant 6 jours, l'interview d'Anne Lécu. Tu as couvert ma honte. Le fait de reconnaître une faute, c'est déjà beaucoup parce qu'un certain nombre de personnes sont dans le déni. Ils disent non, c'est pas moi qui ai fait cela. Donc la reconnaissance d'une faute, d'une erreur, d'un crime, c'est déjà beaucoup.
Oui, je pense qu'il n'y a pas de différence de nature entre un fait qui est condamné par la loi et nos petites pécadilles que nous cachons soigneusement à nos voisins et que nous avouons aux prêtres dans le secret de la confession. Il n'y a pas vraiment de différence. Il y a des différences de degré parfois, mais pas de nature. Et donc, je me sens tout à fait semblable à ces personnes que je vais voir.
Mais en même temps, dans l'Évangile, on va dire, oui, mais Jésus dit, tout ce que vous avez entendu en secret sera crié sur les toits. Il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre, justement, de secret que l'on se confie entre copains, entre copines. C'est tout à fait d'un autre ordre. Et Anne Lécu nous dit bien, elle nous enseigne à vivre sans jugement et sans préjugés, justement, parce que vous rencontrez des personnes vous n'avez pas à savoir ce qu'elles ont fait avant de leur vie. Elles peuvent vous dire ce qu'elles pensent si elles le souhaitent,
oui.
Mais pas davantage.
Oui, oui, oui. Oui, elles peuvent me le dire, elles me le disent ou elles ne me le disent pas. Et de toute façon, souvent je demande, mais qu'est-ce qui vous a amené là? Et dans ma question, il n'y a pas qu'est-ce que vous avez fait, mais qu'est-ce qui vous a amené là? Parce que, bon, ben, il peut se trouver que... Je vous donne un exemple. Vous êtes en voiture, vous sortez d'un bon repas, un enfant traverse, vous ne pouvez pas l'éviter. Vous vous retrouvez en prison. Objectivement, vous n'avez rien fait. Vous êtes responsable, mais non coupable. Et ce sont des choses qui arrivent tous les jours, malheureusement.
Voilà. Un concours de circonstances.
Voilà, des concours de circonstances qui font qu'on se retrouve, des fois dans en prison. Voilà.
Et je rencontrais un ami, aumônier protestant, qui disait « Il est important de dénoncer la notion de Satan, de démon, pour à un certain moment décharger une culpabilité qui serait trop lourde à porter. » Mais je vous vois sourire parce que nous entrons dans une théologie du diable et des anges qui ne plaira pas à tout le monde.
Non, mais ce n'est pas la question, c'est qu'à l'heure actuelle... Avec l'immigration massive que nous connaissons, cette notion de diable ressort énormément. Nous avons parmi nos détenus pas mal de personnes qui viennent de l'Est, du Sud ou d'ailleurs, et pour lesquelles ces notions-là sont très prégnantes. Et donc, il m'est arrivé de piquer ma colère en disant aux filles, attendez-moi, ici je ne veux pas entendre parler ni de sorcellerie, ni de magie, ni de choses comme ça. Un chrétien ne croit pas à tout cela. Et oui, oui, et c'est vrai que le diable est très présent, surtout quand, pour des personnes qui ont eu des enfances massacrées, qui se retrouvent en prison, qui ne savent pas toujours pourquoi, même si leur acte est répréhensible, et qui ont de longues vies de violence et de derrière elles, eh bien cette notion du diable et de tout ça peut ressortir très vite. Et dans parce qu'elles pensent qu'elles sont envoûtées,
voilà.
ou que le diable est... Et c'est là qu'arrive peut-être, c'est là que je pense que je suis utile, parce que je leur dis que ben, nous avons tous un ange gardien, que cet ange gardien est à côté de nous, et voilà, et je leur parle de la Vierge Marie, et voilà.
Oui, la question de la sorcellerie dans notre société qui se dit rationnelle,
mais
en même temps, il y a un retour d'une forme de religieux. Et c'est là peut-être où nous aimons lire le psaume 32, « Dieu veille sur ceux qui le craignent, ceux qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour du malheur ». Il y a dans la poésie des psaumes, toute une sagesse que vous arrivez à puiser, comme vous avez des saints, des héros, ce que je demande régulièrement.
Ah oui. Alors, alors moi,
Oui.
Voilà, mes saints préférés, j'avoue, c'est Sainte Germaine de Pibrac, Sœur Teresa, qui sait que j'ai... Sœur Yvonne Aimée de Malestroit, justement, Saint Charbel Marlouf,
faudrait que vous veniez, Diane, pour
Arsène
nous.
Arsène Boca, oui. un saint roumain qui a lutté dont la présence a été protectrice de la Roumanie pendant toutes les années Ceausescu. Voilà, et puis le Padre Pio, bien sûr, le Padre Pio, Saint Antoine de Padoue. Enfin, je sais pas, il y en a tellement, on peut pas.
Et également des passages de la Bible qui vous sont particulièrement chers. Vous avez choisi de nous lire ou trois versets de Saint Jean, le prologue.
Le prologue du dernier évangile selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, tout par lui a été fait, et sans lui rien ne s'est fait qui ait été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière dans les ténèbres lui, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Voilà.
Jean nous dit, tout homme a été donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, nous le sommes. Mais nous avons commencé par évoquer Abraham. Nous savons que les enfants d'Abraham, surtout à travers son épouse légitime et puis l'esclave de Agar, plus les autres concubines, engendré beaucoup d'enfants. Et nous savons aussi que Jésus a dit à une femme qui était courbée, tu es fille d'Abraham, une seule fois dans sa vie. Hein. Ce que nous dit Anne Soupa dans son beau livre, le défi de notre société moderne, c'est de continuer à transmettre notre foi dans des termes qui soient compris par tout le monde. J'avais dit, tiens, nous lirons la traduction de Florence Delay et d'Alain Marchadour dans la nouvelle traduction qui est autre chose que la Tob ou la Bible de Jérusalem. Et alors, en fait, le rythme, c'est, elle est là, la parole, Dieu, elle est au commencement avec Dieu. Par elle, tout est venu. Bon, nous savons que la liturgie, elle prend des formes différentes. Et nous avons également des témoignages différents là où nous sommes. Vous travaillez à la préfecture et vous auriez pu nous parler aussi de votre maladie qui vous a amené à une conversion profonde.
Oui, ma maladie, ça a été une grâce surtout. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire sur ma maladie, c'est un sujet un peu personnel. C'est une grâce que j'ai reçue et voilà, qui me permet de surfer dans ce monde où la psychose nous a tous atteints, la psychose du Covid nous a tous atteints. Alors, je suis bien contente que le ciel m'ait retiré de tout ça. Ouh là là.
Et vous disiez que justement ça permet de relativiser ces moments de tension ces moments difficiles et de pouvoir partager notre espérance.
Voilà.
Eh bien, nous rendons grâce à Dieu et nous disons probablement aussi avec le psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui ? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu mets toutes choses à ses pieds. Tu nous donnes envie de vivre. » Merci Diane.
Merci beaucoup, merci beaucoup.